Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette émission spéciale Noël et sport d'hiver, car comme le veut la tradition, cela fait 6 ans que Rétrovision vous propose un réveillon pixelisé, avec pour cette année des tests de jeux rétro signés Julien F, Romain, moi-même et Monsieur B, et on commence avec Fire and Ice Christmas Edition. Fire and Ice est un platformer tout mignon développé par Graft Gold et édité par Renegade en 1992 sur Amiga, Atari ST et PC. Vous connaissez sûrement ce titre sous le nom de The Daring Adventure of Cool Coyote, mais sachez qu'une version spéciale Noël fut réalisée et distribuée avec le magazine Amiga Power, un magazine anglais entièrement dédié à l'Amiga, évidemment, en décembre 92. En fait, il s'agit plutôt d'une démo, car il n'y a qu'un seul niveau. De plus, il reprend le premier niveau du jeu original avec des musiques sur un thème de Noël, mais surtout des personnages différents qui collent parfaitement avec l'esprit des fêtes. Vous dirigez Cool Coyote, spécialement habillé pour l'occasion, et votre arme favorite est le lancer de boules de neige bien glacées. Dans la version originale, l'aventure vous mènera de la banquise arctique jusqu'au brûlant désert de l'Égypte ancienne, d'où le titre du jeu « Feu et glace ». Si ce jeu vous rappelle un certain Bubble Bobble, vous ne vous êtes pas trompé. En effet, Snow Bros, sorti en arcade par Toplan en 1990, partage son gameplay avec le hit de Taito. Même si le gameplay reste identique, dans le fond, le jeu diffère quand même. Celui-ci est aussi un jeu à écran unique et vous ne passerez au niveau suivant qu'après avoir éliminé tous les monstres. Pour ce faire, les deux joueurs, car oui, on peut jouer à deux, l'un incarnera Nick et l'autre Tom, deux bonhommes de neige fort sympathiques. Vous avez la possibilité de créer une boule de neige en tirant sur un ennemi et vous utiliserez celle-ci pour dégommer les autres dans un style très bowling. Mais vous aurez certains pouvoirs en récupérant des power-up sous forme de potions. La rouge augmente la vitesse de votre personnage, la bleue augmente le débit de neige envoyé, ce qui permettra d'être plus rapide pour transformer vos ennemis en boules de neige. La jaune, quant à elle, va augmenter la distance de votre jet de neige. Et enfin, la potion verte gonflera votre perso comme un ballon de baudruche et vous aurez la possibilité de voler sur tout l'écran et de dégommer tous les ennemis possibles dans un temps limité. Voilà pour le gameplay. Graphiquement, le jeu est sympa, bien plus beau que son modèle sorti quand même 4 ans plus tôt. Au niveau musique et bruitage, c'est ce qui se faisait dans la moyenne à l'époque, en arcade, mais rien d'inoubliable. La jouabilité est bonne, les persos répondent bien, rien à signaler de ce côté-là. Une bonne idée de jeu pour varier tout en restant dans un véritable style plateforme. Il n'est peut-être pas une référence, mais ce jeu mérite vraiment qu'on s'y intéresse, surtout en cette saison. Ce soft est sorti sur plein d'autres formats comme la Mega Drive et il y a eu des suites, mais nous en reparlerons sans doute un autre jour. L'Antarctique, ces paysages blancs dignes d'une carte postale où l'on peut bronzer par des températures allant jusqu'à moins 90 degrés Celsius. Son absence totale de forêt ou de ville, pas de supermarché, de cinéma ou de bowling. Le calme absolu. En fait, l'Antarctique, ça craint. Et ça, le jeune manchot Penta ne le sait que trop bien. Alors pour passer le temps, Penta court. Tel un Forrest Gump du royaume animal, Penta court tout autour du pôle sud, étape par étape, reliant les quelques stations scientifiques de divers pays implémentées là. Et quand il a terminé de faire le tour, Penta recommence inlassablement de courir sans jamais s'arrêter. Antarctic Adventure fait partie de ces jeux typiques du début des années 80, où d'une idée simple, on en faisait un jeu au déroulement sans fin. Vous contrôlez donc le jeune manchot dans une course contre la montre effrénée pour relier 10 stations scientifiques avant de recommencer sans interruption dans une difficulté à chaque fois plus élevée. Malheureusement pour Penta, la course ne sera pas une promenade de santé, car il devra esquiver de nombreux dangers qui lui feront perdre du temps, tels des crevasses ou des trous d'eau d'où surgiront parfois des lions de mer, ennemis jurés des manchots. Mais de ces mêmes trous peuvent également surgir des poissons que Penta pourra attraper au vol pour s'en délecter et, par la même occasion, augmenter son score. Vous pourrez aussi gagner des points en récupérant des fanions que vous croiserez sur votre route. À force de courir sans cesse, Penta est devenu un véritable athlète et parcourt des kilomètres de paysages glacés en seulement quelques secondes, faisant passer Usain Bolt pour une vulgaire limace tétraplégique. Trop fort ce Penta. Soyons francs, Antarctic Adventure est un titre sympathique à la réalisation tout à fait honnête pour un soft de cette époque. Néanmoins, le déroulement du jeu ultra répétitif, tout comme la musique, ne tiendra pas le joueur en haleine plus de 5 minutes. Seuls les scoreurs les plus assidus y trouveront un intérêt. Notre cher Penta, quant à lui, finira de courir pour fonder une famille. Et c'est son fils, le fameux Pentaro, future mascotte de Konami, qui prendra la relève pour le second opus Penguin Adventure, premier projet commercial sur lequel Hideo Kojima travaillera au sein de Konami. Roddy et Mastico est une série de jeux ludo-éducatifs édités par Lancor entre 1989 et 1991 pour un total de 6 épisodes.
C'est une invitation du Père Noël. Prépare tes valises, Roddy. Nous allons lui rendre visite.
Ce quatrième épisode vous emmène dans une aventure à travers les étoiles dans le pays imaginaire du Père Noël.
Oui. Bien joué.
Le personnage principal est Roddy, un jeune garçon toujours prêt à rendre service. Il est accompagné par Mastico, un robot vintage typique des années 80 avec une tête en forme de boîte de conserve.
Que prend le Père Noël pour sécher ses larmes ?
Ce jeu d'éveil destiné aux plus jeunes est doté de la fameuse synthèse vocale, chère à la société Lancor, puisqu'on la retrouve aussi dans une autre de leurs productions, le manoir de Mortevielle.
Bon voyage, Roddy. Je te confie mes décorations. Les boules, les guirlandes, les bougies.
Il propose aussi une fonction coloriage assez basique, en mode pot de peinture et motif, mais surtout, il est possible d'imprimer ses dessins pour les aimanter sur le réfrigérateur.
Où est l'entrée de l'usine ?
Pour avancer dans l'histoire, il va falloir résoudre des devinettes sous la forme de cherche et trouve ultra simpliste.
Bravo.
Un icône permet d'accéder à une devinette légèrement plus difficile, mais pas de quoi aller chercher une solution sur Internet. D'ailleurs, il n'y en a pas. Roddy Noël est disponible sur Atari ST, PC, Amiga, et il a été nommé à l'époque meilleur jeu éducatif.
Quel chemin Roddy va-t-il prendre ? Montre les différentes étapes. Et puis...
Le hockey est un sport typiquement nord-américain. Il n'est donc pas étonnant que l'adaptation avec licence officielle de ce sport soit faite par une firme nord-américaine. Mais bien avant qu'Electronic Arts ne mette la main sur la NHL, quelques éditeurs nippons se sont essayés à des adaptations ludiques de ce sport qui n'est pourtant pas le plus prisé sur l'archipel. Le plus connu étant Hit the Ice de Taito et Blades of Steel de Konami. Et c'est justement ce dernier dont nous allons parler ici même. D'abord sorti sur arcade, le titre fut adapté sur les consoles Nintendo de l'époque, à savoir la NES et la Game Boy. Le jeu se veut le plus fidèle aux règles de ce sport tout en restant typé arcade. Fini donc la sélection des joueurs et les choix des tactiques. Vous entrerez directement dans le feu de l'action. Le match est divisé en trois tiers-temps et à chaque fin de tiers-temps, les équipes changeront de côté. Mais si le hockey est un sport à part entière, celui-ci doit une partie de son succès aux nombreuses rixes entre joueurs, qui feraient passer les bagarres de footballeurs pour des petites querelles de bac à sable. Et ça, Konami l'a bien compris en intégrant des petites scènes de baston dès que deux joueurs s'accrocheront. Celui qui mettra l'adversaire KO récupérera ainsi le palais pour continuer le match. C'est en grande partie ces courtes phases de castagne qui feront le succès du titre. On notera d'ailleurs le gros laxisme des arbitres qui ne siffleront jamais les fautes, soit dit en passant. En dehors de ça, le jeu reste assez simpliste. Jouable à un ou deux joueurs, vous permettant de sélectionner les équipes de grandes villes du Canada et des États-Unis, le soft dispose de graphismes honnêtes malgré la petite taille des sprites, d'une maniabilité réactive et de musique plutôt anecdotique. Celle-ci n'intervenant que dans les menus, le bruissement des spectateurs se faisant entendre durant toute la durée du match. Malgré ses 20 ans passés, Blade of Steel reste donc un petit jeu simple et efficace pour tous ceux qui apprécient les jeux de sport sans prise de tête, seul ou contre un ami. World of Illusion sur Mega Drive est un excellent jeu de plateforme développé et édité par Sega en 92. Cette licence Disney avait comme particularité un mode coopératif astucieux lors de parties à deux joueurs. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, sachez qu'il y a un magnifique passage sur la thématique de Noël, vraiment de toute beauté, et je vous laisse l'admirer.
Du matin, alors que le soleil n'est pas encore levé et que les chouettes continuent à ululer, le fier chasseur est dans le sentier de la guerre. Le fusil à la main, la gibecière en bandoulière et un bon gramme d'alcool dans le sang, ça c'est pour avoir chaud, il avance à pas feutrés dans la neige, le regard torve et l'oreille aux aguets. Soudain, un rire inhumain déchire le sentier forestier. Sans réfléchir un instant, car ça prend trop de temps, le chasseur braque son fusil et tire. S'approchant de son trophée, le chasseur constate qu'il s'agit d'un des lutins du Père Noël. C'est le risque lorsque l'on chasse un lapin. Mais lapin, renne, lutin ou ours polaire, de la viande reste de la viande. Le chasseur enfourne donc sa proie dans la gibecière et continue son chemin.
Telle pourrait être l'idée directrice de Santa's Gone Postal, une suite festive de Natural Phone Killer, un petit FPS sans prétention réalisé par le studio Small Rockets et disponible uniquement en téléchargement à la fin des années 90. Loin d'être un chef-d'œuvre dans sa réalisation, NFK se veut avant tout être un jeu décalé et totalement décomplexé. Ici, le principe reste simple, remplir la gibecière avant la fin du temps alloué. Peu importe quel animal se présentera devant votre fusil, lapin, cerf ou ours. Dans cette version spéciale Noël, les ours sont devenus polaires et les affreux lutins au rire moqueur ont été ajoutés. Sans parler du dernier stage où vous devrez faire face à des dinosaures habillés de blanc et rouge. Tout un programme. Pour faire face à ce gibier quelque peu hors norme, vous démarrez avec un simple fusil à lunettes, mais vous récupérez bien vite une sulfateuse, un lance-grenade aux effets dévastateurs, voire même un lance-missile téléguidé. Vous l'aurez compris, Santa's Gone Postal est avant tout un défouloir bien décérébré, qui sert avant tout de rapide passe-temps. Et ce ne sont pas les sévices bien cinglantes et parfois vulgaires du chasseur, censurées dans cette version de Noël, qui nous contrediront. Si vous n'êtes pas rebuté par les graphismes extrêmement simplistes et vieillots de ce titre, celui-ci peut valoir le coup d'œil, juste par curiosité. Au pire, faites comme notre chasseur, avec quelques grammes d'alcool dans le sang, la pilule passera mieux. Ah, regardez-moi ça, une véritable cérémonie d'ouverture, pixelisée bien sûr. Nous voilà aux Jeux Olympiques d'hiver avec Winter Game. Ce jeu sorti en 1986 par Epix sur Amstrad CPC n'est tiré d'aucun jeu olympique réel. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de jeu porté sur des événements réels, surtout en 1986. Trop tôt pour les Jeux Olympiques d'hiver de Calgary de 88 et trop tard pour les JO d'hiver de Sarajevo de 1984. Quoi qu'il en soit, cela ne nous empêchera pas de concourir dans celui-ci. Vous aurez donc le choix dès le menu à différentes options, telles que participer à toutes les épreuves, une sélection d'épreuves choisies par vous-même ou bien juste une épreuve précise. Vous pourrez aussi sélectionner le nombre de joueurs de 1 à 8 ou changer le type de contrôle. Il est aussi possible de voir les records enregistrés et revoir la cérémonie d'ouverture. Au niveau des épreuves, le choix est particulièrement intéressant. Ski acrobatique, biathlon, patinage de vitesse, patinage artistique, saut à ski, patinage libre et enfin le bobsleigh. Commençons tout d'abord par le ski acrobatique. Le but est de faire des figures en l'air avec le bouton et la direction tout en retombant correctement au sol. Ensuite, un jury vous notera pour vos performances, si performance il y a. Car c'est une épreuve assez difficile. Le biathlon aussi est difficile, car dans cette épreuve, tout sera une question d'équilibre entre la vitesse en ski de fond et vos pulsations cardiaques, car si elles sont trop élevées, vous augmenteront la vitesse lors de la phase de tir. Malgré cette difficulté, on peut dire que les programmeurs ont su innover dans le gameplay des épreuves d'endurance. Le patinage de vitesse est l'une des épreuves les plus simples, si ce n'est la plus simple. Car dans celle-ci, il ne vous sera demandé uniquement d'actionner le joystick de gauche à droite. Ensuite, vous aurez le droit de participer au patinage artistique. Et là, ce sera la crise de nerfs. Il faudra effectuer des figures tout en faisant attention à l'atterrissage de votre patineuse. Vraiment pas facile du tout. Le saut à ski n'est pas d'une difficulté insurmontable, mais il est vrai que stabiliser le skieur n'est pas chose facile. Sinon, rien à dire si ce n'est que l'on est heureux de réussir un saut parfait. Le patinage libre n'est rien d'autre que la même épreuve que le patinage artistique, sauf que vous pouvez faire autant de figures que les 2 minutes vous permettront contre la seule minute de l'autre épreuve susdite. J'espère que vous me suivez. Pour finir, le bobsleigh où vous pouvez contrebalancer dans les virages pour ne pas sortir de la piste. Une épreuve facile et grisante qui vous amusera à coup sûr. Ce jeu est sorti sur différents supports tels que le Commodore 64, l'Apple II, etc. Un soft super plaisant à jouer seul ou à plusieurs, à essayer d'urgence au coin du feu avec un chocolat chaud et une bande de potes. Ah la neige, que c'est magnifique, surtout quand on se prend une boule dans le coin de l'œil, c'est super agréable. Non mais sans blague, impossible de se promener au parc sans en prendre une. Enfin, c'est bien rigolo quand on la lance, mais pas quand on la reçoit. Et c'est là que prend place notre jeu spécial règlement de compte sous la neige. Snowball Fight, sorti sur Atari 800 XL par Double Click Software, est un freeware de 1991. Ce jeu n'est jouable qu'à deux, ce qui est parfait dans cette période où on reste pour la plupart du temps enfermé. Ce soft n'est pas un exploit graphique ni musical. Non, en fait, il n'a rien d'exceptionnel, si ce n'est le fun qu'il procure. Et à ce niveau, il faut bien avouer, on se marre grave. Vous allez évoluer dans différents décors aléatoires, ce qui permet une bonne replay value. Et au niveau des commandes, rien de plus simple, la flèche du bas pour faire une boule de neige, et plus vous ferez bas, et plus la boule sera grosse, mais moins loin elle ira bien évidemment. Les flèches de direction pour aller de gauche à droite, et le bouton pour concentrer le tir en indiquant une direction. Les commandes sont très simples, mais il faudra aussi prendre en compte le sens et la force du vent, sinon, car au retour. Autre chose sympa, quand l'un d'entre vous sera touché, il indiquera parfois où la boule a touché. Par exemple, nez cassé, œil crevé, ça c'est de la précision. Pour conclure, on peut dire que ce petit soft, qui ne paye pas de mine et qui est sur un support peu répandu, vous donnera un plaisir fou. Quel plaisir de balancer des boules de neige à ses potes et leur casser le nez. Virtuellement, j'entends bien.
Aïe, tu m'as cassé une dent, Gugus.
Dernier titre de cette sélection, Santa's Xmas Caper, sorti en 1992 sur Amiga. Ce jeu ressemble pas mal à Fire and Ice, vu précédemment. Sauf que là, vous dirigez le Père Noël, et comme tout bon Papa Noël qui se respecte, vous devrez récupérer tous les cadeaux éparpillés à travers les niveaux enneigés. Une fois que le compte est bon, vous pouvez passer au niveau supérieur en ouvrant le super gros cadeau. En plus, vous tirez encore une fois des boules de neige pour immobiliser les ennemis. Ce titre est un pur jeu de plateforme, assez rigide dans sa maniabilité, mais fort heureusement, la difficulté n'est pas très élevée et vous le finirez facilement en moins d'une demi-heure. Sa courte durée de vie et sa réalisation minimaliste nous donnent l'impression d'avoir entre les mains une démo ou une production non commercialisée. Si vous voulez essayer un bon platformer, essayez plutôt Days Before Christmas sur Mega Drive, à moins que vous soyez vraiment un amateur de jeux ayant une thématique de Noël. On arrive bien tranquillement vers la fin de cette émission spéciale Noël, en espérant que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Monsieur B et Julien F se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël en famille, avec plein de cadeaux rétro évidemment. Alors on vous dit à l'année prochaine sur Rétrovision.